Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par le laboratoire Biotalasol, spécialiste dans l'eau de mer et en compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans.
Comment ça va, Caro ? Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
Bonjour Caroline.
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
Tellement une bonne idée de tousser sur le générique, franchement.
Je sais, je trouvais aussi, je l'avais pas encore faite.
Oh, on l'avait jamais fait, non mais c'est bien, il faut innover en radio. Ne pas tomber dans les trucs un peu trop faciles. Alors vous votez, voilà. Si vous aimez que Caroline tousse pendant le générique, vous nous envoyez un message. Un truc complètement bêtis. Ça va, vous n'allez pas vous étouffer quand même pour être là?
Non, tout va bien, tout va bien.
Bon, Caroline Gaillet, chaque semaine sur Nutri Radio pour vous donner des conseils, répondre à vos questions que vous vous posez sur l'usage des plantes en phytothérapie, en gémeaux, même les produits de la ruche, voilà, l'aroma, Caroline est là. Faites quoi Caroline? Vous faites quoi là?
J'ai rien fait, c'est bon, je touche plus à rien.
Qu'est-ce qu'elle trafic? On est en distanciel, au moins on le sait. Ça, si quelqu'un avait un doute, là on sait qu'on est maintenant en distanciel. Comment ça va Caro? Comment s'est passée la semaine?
Eh ben bien. J'ai fait un petit tournage télé pour une émission.
Quelle émission?
C'était bien.
Qui va être diffusée
quand? L'émission Bel et Bien sur France 2.
Ouais.
C'est une émission qui passe le samedi matin. C'est le pendant de l'émission de radio Grand Bien Vous Fasse sur France Inter. Voilà, petite chaîne. Et quand est-ce que ça passe? C'est la bonne question. Je ne sais pas. C'est une émission enregistrée, donc la production me dira. Mais... Je n'ai pas de date.
Bon, eh bien, écoutez, vous nous tenez au courant, bien évidemment. On va démarrer directement ces émissions. Et vous le savez, je l'ai dit, mais je ne vous ai pas dit comment poser vos questions à Caroline Gaillet. Je le répète, si vous venez d'arriver, de découvrir comment ça va, Caro, eh bien, vous pouvez le faire via le formulaire de contact du site nutriradio.fr. Voilà, vous précisez comment ça va, Caro, ou via le numéro de téléphone de Nutri Radio, un petit message vocal ou un petit message tout court, le 0666-945-902, 0666-945-902. Caroline Gaillet, c'est vrai qu'on vous présente plus, en fait.
Ouais.
Ouais, vous avez remarqué, on ne précise même plus qui vous êtes, ça y est, c'est un acquis.
Je fais partie des murs.
Mais non, mais c'est vrai, on dit diététicienne, nutritionniste, vous êtes patronne ou gérante d'une herboristerie également à Aulnay. Donc voilà, multi-casquette chroniqueuse, voilà, rédactrice de
auteur.
Ouais. Voilà, on le dit, parce que des fois, quelqu'un qui viendrait, par exemple, on pose des questions, on dit, mais c'est qui? Pourquoi elle a une connaissance comme ça? Ben voilà, on reprécise. Bien évidemment, on va démarrer avec une question de Lucas d'Avignon qui vous demande comment le thé vert peut-il contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire et le métabolisme? Quelle quantité recommandez-vous par jour?
Alors, le thé vert, c'est une boisson déjà qui est très antioxydante, qui est connue du coup pour avoir une action un peu anti-âge. Elle prévient tous les phénomènes du vieillissement et donc du vieillissement cardiovasculaire au niveau de nos artères, de notre cœur, etc. C'est une boisson qui contient beaucoup de flavonoïdes, de polyphénols, de tanins, tout un tas de molécules en fait qui vont avoir des effets donc bénéfiques. Alors, sur le côté... un petit peu thermogénique, vous savez, il y a de la théine dedans. La théine, c'est un excitant pour le système nerveux, ça permet de se réveiller, de soutenir l'acuité intellectuelle, le tonus physique, mais ça a aussi un effet pour un petit peu brûler plus vite l'énergie au repos, c'est ça l'effet thermogénique, et donc dans les protocoles minceur, perte de poids, quand on fait un peu attention à sa ligne, ça permettrait d'augmenter ce qu'on appelle le métabolisme basal. Alors attention, hein, vous n'allez pas brûler 60% de plus d'énergie, loin de là, vous augmentez entre 8 à 12% le métabolisme basal. Donc c'est quand même un petit coup de pouce quand on fait... attention à sa ligne. Les tanins, en plus, ils ont en général une action à modérer un petit peu l'appétit, ce qui peut aussi aider parfois. Et puis, il y a une action bénéfique un petit peu sur les graisses sanguines. Donc, ça baisse un petit peu l'excès de cholestérol, la tendance à pouvoir faire de l'athérosclérose, qui est une maladie où on a des plaques, des dépôts de plaques de cholestérol qui vont se durcir et rigidifier la paroi des artères. Donc voilà, c'est avec tous ces effets-là que le thé vert est réputé bon pour la santé. Quant à la quantité qu'on prend, alors c'est bien à partir de 2 tasses par jour. Donc quand je dis une tasse de thé vert, c'est des tasses de 25 centilitres, hein, raison d'une cuillère à café de thé vert. Donc le thé vert, c'est un thé qui s'infuse très peu. En général, c'est 3 minutes, ça suffit, dans une eau à 95 degrés. Après, fiez-vous toujours aux recommandations de votre fabricant. En général, c'est indiqué sur le sachet. Le thé vert est un thé qui peut se faire réinfuser d'ailleurs. Et voilà, donc minimum 2 tasses et on ne dépasse pas 4 tasses par jour. Le thé vert étant une boisson diurétique, après c'est pas forcément non plus recommandé par rapport au rein. Voilà, donc entre 2 à 4 tasses par jour, c'est bien et plutôt consommé entre le matin et 17h si on est sensible à sa théine qui a tendance un peu à nous dynamiser. Néanmoins, dans le thé vert, vous avez aussi de la théanine. Et la théanine, c'est une molécule bien-être, une molécule zénifiante et une molécule qui fait que quand ils prennent un thé vert le soir, eh bien, ils dorment mieux. Mais ça, ça dépend un petit peu des sensibilités de chacun. Il y en a qui sont plus sensibles à l'effet dynamisant et d'autres à l'effet calmant. Donc, ça se teste. Et puis, en fonction de votre sensibilité à vous, eh bien, vous consommez aux heures judicieuses.
Merci. Vous avez une bonne voix, Caroline, cette semaine. Vous étiez un peu...
Oui, j'ai récupéré. C'est bon.
Ah ouais, là, on sent que vous êtes reparti. Vous êtes au taquet, comme on vous connaît, en fait. Égal à vous-même,
voilà.
On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
Fermez les yeux. Inspirez. Et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène, Biotalasol est le spécialiste des compléments alimentaires marins, des ingrédients d'origine naturelle, bio ou issus de la cueillette sauvage. Biotalasol puise au cœur de la mer le meilleur et l'énergie indispensable pour votre santé et votre équilibre. Laboratoire Biotalasol, récoltant d'eau de mer et fabricant français de compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans. Plus d'infos sur biotalasol.com.
Comment ça va, Caro ? Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
Caroline Gaillet sur Nutri Radio pour répondre chaque semaine à vos questions, donc vous n'hésitez pas, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, d'ailleurs on vous remercie. Oh là là, vous vous souvenez des débuts d'émission, Caroline, on avait quoi ? 2 questions qui se battent en duel ?
Ben c'est surtout que je devais faire des appels en story, ça me prenait du temps de récupérer les vocaux, c'était un peu la misère. Mais on évolue, c'est bien.
Écoutez, on a commencé, on était zéro. Voilà, on est 35 000 par semaine à peu près, donc ça change un peu. Il y a des questions à foison. Ouais, en veux-tu, en voilà. Bon, non, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on a quand même pas mal de questions, mais continuez à les poser parce qu'on va essayer peut-être aussi de les regrouper par thème, parce qu'il y a parfois des thèmes qui reviennent et des questions qui concernent les mêmes plantes, par exemple. Donc, on va tout traiter. Ça, c'est garanti. Je sais pas en combien d'années, par contre. Ce qui veut dire, Caroline, ça vous implique un peu sur le... Vous avez compris.
Ça m'engage.
Ça vous engage un petit peu dans les 8 prochaines années. Mais bon, hein, c'est comme ça entre nous. Alors, Emma de Bordeaux, tiens. C'est une question, et on embrasse Emma de Bordeaux, mais c'est une question qui contient plusieurs questions. Je vous la fais en une partie, et puis on va la décomposer selon les questions qu'elle contient. Donc, quels sont les bienfaits du curcuma sur l'inflammation et la digestion ?
Inflammation, pas inflation, Fabrice.
J'ai dit quoi ? J'ai dit inflation.
Inflation.
Ah, c'est vrai que tout a augmenté, même le prix du curcuma. Vous avez compris. Donc, je répète. Emma de Bordeaux, quels sont les bienfaits du curcuma sur l'inflammation et la digestion ? Comment l'intégrer efficacement dans notre régime alimentaire ? Et 3, y a-t-il vraiment un intérêt à la prendre sous forme liposomale ? À le prendre.
Ouais, ok.
Eh oui, 3 questions. Alors déjà, quels sont les bienfaits du curcuma ? Sur l'inflammation et la digestion.
Alors, le curcuma, c'est une plante, donc c'est un petit rhizome, hein, c'est une petite forme biscornue, voilà, c'est plus petit que le gingembre, c'est un colorant, c'est très jaune, jaune pétard, ça tache facilement la vaisselle, les plans de travail, etc. Et du coup, sur l'inflammation, en fait, c'est un anti-inflammatoire, en fait, donc il est à la fois anti-inflammatoire viscéral, donc il va agir sur les viscères digestifs, très bien pour l'estomac, pour les personnes qui souffrent de gastrite, donc gastrite c'est l'inflammation de l'estomac, les œsophagites, l'inflammation de l'œsophage, et puis la colite, l'inflammation du côlon, mais aussi dans des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou comme la rectocolite ulcéro-hémorragique. Et puis c'est aussi un anti-inflammatoire articulaire. Il sera bénéfique dans l'arthrite, dans la polyarthrite, dans l'arthrose, dans les spondylarthrites ankylosantes, dans tout un tas de problématiques rhumatismales, en fait, que ce soit lié à des chocs traumatiques, à de l'usure, à de la vieillesse, à des maladies, eh bien, le curcuma, il sera intéressant. Donc, il abaisse la réaction inflammatoire. Du coup, en général, une substance, quand elle est anti-inflammatoire, elle est assez facilement antalgique parce que si j'ai moins d'inflammation, j'ai moins de douleur. Parce que l'inflammation, c'est... rougeur, chaleur et en général un peu œdème. Donc, ça va, c'est des zones où il y a de la congestion et du coup, ça vient appuyer, compresser d'autres zones du corps et c'est ça qui génère de la douleur en partie. L'intérêt du curcuma en plus, quand les douleurs, elles sont, enfin, quand l'inflammation a une tendance chronique, donc que ce soit sur des inflammations viscérales, digestives ou des inflammations articulaires, c'est que vous avez beaucoup de radicaux libres, de stress oxydatif qui sont liés à ces zones-là. Et du coup, le curcuma, c'est un super antioxydant. Donc, il va être très bien justement dans cette prévention des maladies inflammatoires chroniques. C'est une plante qui soutient en plus le foie, la vésicule biliaire. Donc, quand vous avez comme ça des douleurs, etc., souvent, vous êtes amené à prendre des médicaments anti-inflammatoires, des médicaments antalgiques, c'est-à-dire antidouleurs, qui ne sont pas toujours neutres pour le foie, pour l'estomac. Et donc, le curcuma, bah, c'est bien parce qu'il soutient et le foie et l'estomac. Donc, il va aider à ce que votre corps gère mieux cette prise médicamenteuse. Attention toutefois, il peut avoir un petit effet fluidifiant du sang. Donc, si vous êtes déjà sous anticoagulant, prudence. Et puis, si on a des calculs biliaires, vu qu'il soutient l'évacuation du flux biliaire, prudence là aussi si vous savez avoir des calculs biliaires. Comment est-ce qu'on l'introduit dans son alimentation ? C'était ça la deuxième question, Fabrice, c'est ça ?
Exactement.
Alors, il y a plusieurs formes. Soit vous pouvez acheter le rhizome frais sur l'étal du marché et vous pouvez, par exemple, incorporer un jus si vous avez une centrifugeuse ou un extracteur. Vous pouvez aussi le râper et l'utiliser un petit peu dans l'alimentation. Attention, je vous le redis, ça tâche. C'est un peu une galère quand même. Et effectivement, le curcuma contient des curcuminoïdes qui sont des substances qui sont plutôt liposolubles. Ça veut dire que c'est soluble dans du gras. Donc, s'il n'y a pas de gras, genre si vous en mettez dans un jus et que vous buvez ce jus comme ça, entre les repas, qu'il n'y a pas de corps gras, pardon, vous allez très peu capter tous ces curcuminoïdes. Donc, vaut mieux l'intégrer au cours d'un repas. Donc, sinon, vous avez la poudre. Vous trouvez des petits tubes de poudre de curcuma en boutique bio, par exemple, qu'on peut saupoudrer dans une vinaigrette, dans une sauce et manger avec du riz, des légumes, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Mais c'est pas mal surtout dans une visée préventive, d'accord ? Quand le mal n'est pas là, le curcuma à visée alimentaire, c'est très bien. Par contre, quand vous voulez avoir une action curative, une action thérapeutique, parce que, manque de bol, l'inflammation, elle est déjà là, elle est installée, on préconise plutôt les galéniques gélules. Parce qu'en gélule, vous avez du curcuma qui, en général, est standardisé à 95% de curcumine, et alors qui est plus ou moins additionné de gingembre ou de poivre noir, qui est plus ou moins sous forme liposomée. Alors, c'est vrai que le gingembre, le poivre, ça augmente l'assimilation en fait du curcuma, mais ça a quand même un pouvoir un petit peu irritant sur la muqueuse gastrique et intestinale. Ça augmente la perméabilité en fait, et chez certaines personnes, c'est mal toléré. Donc, vous n'êtes pas obligé de toujours avoir cette petite adjonction de poivre noir ou de gingembre. Par contre, le corps gras, il est quand même fortement recommandé. Donc, ces gélules de curcuma, si vous les avalez au cours d'un repas dans lesquels il y a de l'huile d'olive, vous n'êtes pas obligé d'avoir des formes liposomées. Les formes liposomées, ça veut dire que ce curcuma, il est déjà complexé à une forme grasse. Et effectivement, vous aurez une pénétration au sein de la cellule qui va être meilleure. C'est des curcumas que vous payez aussi beaucoup plus cher. Chez les personnes jeunes qui n'ont pas spécialement de soucis digestifs, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller sur ça. Les formes liposomées, on les recommande plutôt soit chez les sujets âgés, parce qu'on sait qu'avec l'âge, on a des capacités digestives et d'assimilation, d'absorption qui sont tout de même moindres. Et les formes liposomées, que ce soit sur le curcuma ou sur d'autres nutriments, vont quand même aider à la captation d'une grosse partie des actifs de votre gélule. Donc, c'est plus intéressant. Ou alors pour les gens qui ont des gros soucis de malabsorption digestive après des chirurgies bariatriques, par exemple, les chirurgies de l'obésité ou autres, pourquoi pas. Mais ce n'est pas, selon moi, une exigence à avoir à chaque fois pour tout le monde.
Eh bien voilà, merci beaucoup. C'était clair, net. Vous avez à la fois expliqué aussi ce qu'était une forme liposomale. Et ben voilà, c'est ça Caroline Gaillet, mesdames, messieurs, et on rappelle qu'elle découvre la question en même temps que vous, et c'est ce qui va être le cas aussi pour la prochaine qui arrive juste après ceci.
Comment ça va, Caro ? Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
Caroline Gaillet sur Nutri Radio pour répondre à la question de Max de Lyon. J'aime bien ce prénom, Max. La propolis est souvent citée pour ses propriétés antibactériennes. Comment peut-elle être utilisée au quotidien pour renforcer le système immunitaire ?
Alors, effectivement, la propolis, c'est une résine qui est produite par les abeilles. Et à la base, un propolis, étymologiquement, pro, c'est devant, polis, c'est la ville. Et en fait, la propolis, c'est une résine qu'elles utilisent en fait pour protéger l'entrée du rucher des bourdons, des envahisseurs, etc. Ils l'utilisent aussi pour, quand il y a des morts dans la ruche, pour, entre guillemets, les embaumer et les mettre là-dedans pour pas que ça pourrisse. Et en fait, donc, c'est hyper anti-infectieux, c'est aussi très cicatrisant, ça soutient l'immunité, c'est une action. Donc, dans les anti-infectieux, c'est anti-infectieux contre les bactéries, mais aussi contre les virus, contre les parasites, contre les champignons. Donc, ça a un large spectre d'action antimicrobienne. Tout en étant cicatrisante, quand généralement il y a aussi des muqueuses, des zones, la peau même, qui pourraient être abîmées, lésées, etc. Et puis, comme ça va soutenir notre système immunitaire, ça va permettre d'agir en prévention pour tomber moins souvent malade, et puis si on tombe malade, que ce soit moins sévère, moins long. Donc, la propolis se présente sous différentes galéniques. Vous avez des pastilles à sucer, vous avez des sprays pour la gorge, des sprays pour le nez, vous avez même des gouttes pour les oreilles et vous avez des petites gouttes à avaler. Vous avez des gélules. Donc, il y a tout un tas de… Il y a même des crèmes à base de propolis, des gels, etc. Donc, vraiment, il y a toute une déclinaison. Quand vous voulez avoir une action, je dirais, globale, il faut plutôt privilégier les voies orales. Alors, moi, j'aime bien le système des gouttes plutôt que la gélule. Après, vous trouvez aussi de la propolis pure à mâcher. Alors, attention, déjà, ça coûte assez cher en général. Et puis, le goût est quand même pas hyper ragoûtant. Donc, ça se teste. Si vous aimez bien, volontiers. Si vous n'aimez pas, clairement, les petites gouttes qu'on dilue dans une petite cuillère à café de miel et qu'on se prend tous les matins sont très bien. Les gouttes, vous avez, selon les fabricants, des formes avec alcool et des formes sans alcool. Ça, c'est selon votre âge. Alors, la propolis, c'est quelque chose qu'on peut donner à partir de 36 mois, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Donc là, on va plutôt privilégier des formes sans alcool pour les enfants et puis aussi pour les personnes qui ont le foie malade, pour les personnes de confession musulmane, pour les femmes enceintes. Voilà, on sera plutôt sur des formes sans alcool. Sinon, on peut être sur des formes alcoolisées et là encore, selon les fabricants, vous avez des petits dosages alcooliques et puis vous en avez d'autres avec des concentrations d'alcool qui sont vraiment fortes. Souvent, il est indiqué de prendre la propolis dans l'eau. Moi, clairement, je trouve ça pas idéal parce que la propolis étant une résine, elle a aussi une tendance un peu à se mettre sur les parois de votre verre et donc vous n'avez pas l'entièreté des gouttes que vous avez mises. Donc moi, je dis qu'un produit de la ruche, ça se prend avec un autre produit de la ruche qui est le miel. Et donc, je vous conseille plutôt de prendre une petite cuillère à café de miel et sur cette cuillère à café, vous venez mettre, alors là encore selon le fabricant, mais 1, 5 à 10 gouttes selon la concentration de votre propolis dans cette cuillère de miel. Vous pouvez le faire tous les matins en usage préventif sur la saison hivernale de octobre à mars par exemple. Et puis vous pouvez le faire 4 fois par jour lorsque vous êtes malade, si vous attrapez un rhume, une angine, une gastro, une bronchite, voilà, pour soutenir vos défenses. L'avantage, c'est que ça peut se cumuler avec des traitements médicamenteux si besoin. Donc, si ça empire et que voilà, vous êtes contraint d'aller chez le médecin qui vous met sous antibiotiques ou autre, il n'y a pas de souci. La propolis peut tout être fait prise comme ça. Pour les femmes enceintes, alors ce n'est pas une contre-indication stricte, mais c'est toujours quand même recommandé d'aller consulter son professionnel de santé. Ça dépend du terme de votre grossesse voilà, et ça dépend du mode de prise. Et voilà, et la propolis, c'est un produit qui est évidemment déconseillé si on est allergique aux piqûres d'abeilles. Voilà, parce qu'il y a potentiellement, c'est un risque théorique, mais une réaction allergique qui pourrait être là.
Alors justement, en parlant d'allergie, est-ce que la propolis a par contre des vertus contre l'allergie au pollen ?
Alors en fait, comme elle renforce le système immunitaire de façon assez globale, elle pourrait avoir une tendance à minimiser toute la réaction allergique liée au rhume des foins, par exemple, et toute cette rhinite saisonnière. Mais ce n'est pas un produit spécifique. C'est moins spécifique que déjà la quercétine, qui est un peu notre antihistaminique en micronutrition de base. Et j'invite tous les allergiques à se supplémenter en quercétine dès maintenant, dès mi-février. Et puis après, vous avez d'autres produits comme le plantain, qui est un super antihistaminique, comme le bourgeon de cassis, comme le bourgeon de viorne, voilà, qui vont être des actifs plus spécifiques que la propolis. Néanmoins, il y a des personnes qui observent que lorsqu'elles prennent de la propolis régulièrement tout l'hiver, eh bien, elles sont un petit peu moins sensibles au printemps lors des pollens. Donc, voilà, ça sous-tendrait quand même que ça fait que ça a une action.
Et donc, par rapport aussi au curcuma anti-inflammatoire, ça pourrait être aussi intéressant dans le cadre de prévention d'allergies, atténuation des allergies, peut-être ?
Alors, le curcuma, oui, tout à fait. Lui, en fait, pareil, ce n'est pas un antihistaminique en tant que tel, mais comme c'est une plante qui agit au niveau du foie et que le processus allergique, il se joue quand même au niveau du foie, ça va aider. Et comme c'est un anti-inflammatoire et que la réaction allergique, par définition, est inflammatoire, que ce soit les yeux tout rougis, la gorge qui gratte, les démangeaisons, les éternuements, etc. Tout ça, c'est de la manifestation inflammatoire. Donc, d'ailleurs, dans des complexes à visée anti-allergique, anti-histaminique, souvent, en gélule, vous retrouvez le curcuma qui sera présent avec justement de la quercétine, des œufs de caille, enfin tous ces actifs réputés contre les allergies.
Donc, on pourrait imaginer quercétine, par exemple, curcuma, ça peut être une synergie gagnante ?
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Bien, je rappelle, hein, si vous venez d'arriver, que ces informations ne se substituent pas à un avis médical, bien évidemment, ni à un traitement. Donc, renseignez-vous, rapprochez-vous de votre professionnel de santé. Dites-lui que vous avez écouté Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Demandez-lui s'il a téléchargé l'appli Nutri Radio. Comme ça, on est sûr. Et puis après, la discussion est ouverte. Et s'il ne sait pas, eh bien, il dira oui, Caroline a raison. Ou il est d'abord... fera comme un beau professionnel, il se renseignera et vous reviendrez vers lui. Juste une chose, vous avez, pour terminer l'émission, vous avez précisé que le curcuma, c'était mince, au niveau de la couleur jaune là,
c'est un colorant,
voilà, colorant, C-O-L-O-R-A-N-T, motus, juste, non, pour les dents, je pensais, ça rend pas les dents jaunes, juste, donc.
Bah, tout l'intérêt de l'utiliser en gélule. Ah oui. Effectivement, quand on l'utilise en poudre et que, je sais pas, vous en mettez dans vos tri, alors après, voilà, vous mettez pas une pâte de curcuma non plus sur les dents, donc ça va aller. Et puis le curcuma, en général, il est solubilisé dans autre chose. Donc voilà, il colore moins en jaune que va colorer, je sais pas, le bâton de réglisse que vous utiliseriez en substitution de votre cigarette, par exemple, colore nettement plus les dents en jaune que votre poudre de curcuma qui est mise dans votre alimentation.
Bien, bon écoutez, si vous aviez un projet, vous qui êtes peut-être dans le négoce de compléments alimentaires, fabrication de dentifrice à base de curcuma, eh bien non, on repassera. Merci beaucoup, voilà. Caroline. On se retrouve la semaine prochaine, émission à retrouver à partir de 18h ce dimanche sur nutriradio.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio également. Au revoir Caroline.
Au revoir Fabrice, bonne journée à tous.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Comment ça va Caro ? Caroline Gaillet sur Nutri Radio.